deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois. Écrit libre.
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 Écrit libre. Écrit libre.
Toutes les directions. All the Directions, c'est le nom d'une photo réalisée à Nantes en l'an 2000 par l'artiste roumain Mircea Cantor. Déroute, insatisfaction, dernière pause avant le grand départ. Les héros des histoires suivantes, inspirés par cette photo, sont livrés à un choix hasardeux. Le premier texte évoque la photo dont il est question et vous emmène même au musée. La dernière nouvelle est une transposition inattendue de l'image. Certains textes sont imprégnés de Nantes, d'autres de nulle part, juste d'une atmosphère portuaire, rêveuse et mélancolique.
L'œuvre est impressionnante. Elle recouvre une bonne partie du mur du fond de la salle. Moi, je fais figure d'une pauvre mouche échouée dans un décor inattendu, celui de All the Directions, l'une des dernières acquisitions du musée d'art de Nantes. Cette photographie de Mircea Cantor a été prise boulevard de la Prairie au Duc en l'an 2000, au sein de ce quartier alors semi-désert, ancien fleuron de l'activité portuaire de Nantes, complètement rénové depuis et accueillant notamment le hangar à bananes, bien connu des fêtards nantais. On y voit un jeune autostoppeur tenant un panneau blanc au bord d'une voie déserte. De l'autre côté de la route, un poteau, et derrière, dans le bleu du ciel, la flèche de la célèbre grue jaune, vestige des chantiers navals. Au loin, la tour de Bretagne, symbole d'un urbanisme dépassé, d'un capitalisme débridé, d'une croissance irraisonnée. Mais voilà que je m'énerve encore. À quoi cela sert finalement, puisque personne ne bouge? On va tous mourir, de chaud, terrassé par un virus au nom imprononçable, sous les bombes de l'ennemi ou les trois à la fois. Il a encore dit ce matin à la radio. Parce que c'est là que tout a commencé, à 8h31 en ce jeudi 3 novembre 2023. L'animateur de la matinale a lancé de sa voix guillerette, juste après le bulletin météo. Décidément, l'été n'en finit pas, Marlène. J'ai recraché mon café et j'ai décidé d'être un héros. Seul dans ma cuisine, j'ai construit point par point mon plan d'action et 5 minutes plus tard, j'étais prêt à en découdre avec la société. Après avoir épongé le café sur la toile cirée, je suis descendue au Carrefour Marquette au bout de la rue où je remportais ma première victoire en trouvant de la superglue. Visant un bilan carbone proche de zéro pour cette expédition, je décidai de snober le bus et me diriger d'un pas décidé vers le musée où je pus entrer incognito, endossant sans difficulté le costume d'enseignant accompagnateur d'un groupe scolaire en goguette. Mon nouveau collègue, un prof d'art plastique visiblement déjà exténué par son trajet en tram avec 30 adolescents surexcités, n'a alors même pas prêté attention à moi. Et c'est avec une déconcertante facilité que j'ai ensuite pu arriver jusqu'ici, tel Harry Potter emmitouflé dans sa cape d'invisibilité. Me voilà donc englué sur ce cadre de 6 mètres par 3, la main comme accrochée à un long poteau des télécoms, coincée entre un bout de la grue jaune et la tour de Bretagne, rendue ridiculement petite par la perspective. Et personne pour ne serait-ce que s'offusquer de mon geste. Voilà le problème. Car que vaut mon acte de rébellion s'il n'est partagé par personne? Stratégiquement, c'est donc un échec total. Symboliquement, l'œuvre était pourtant idéale. Ce décor post-industriel était celui qu'il fallait pour exprimer mon amertume et ma révolte en y collant ma main gauche à la glu. Bon, je ne vais pas rester là à ruminer éternellement. Il n'y a donc pas un seul gardien qui remarquait ma présence dans cette pièce? Il est vrai que nous sommes dans les tréfonds du musée, au niveau moins un du cube, et le peu de visiteurs qui y accèdent est généralement perdu. Ce qui ne semble être le cas de personne aujourd'hui. Pas de visiteurs garés, pas de gardiens. Restons zen. Avec un peu de chance, un agent de sécurité compréhensif me délivrera lors de la fermeture. Peut-être même aura-t-il de l'acétone. Ma position est vraiment inconfortable. J'essaie de dégager ma tête du cadre en la tournant sur la droite et c'est là que je le vois, l'autostoppeur. Il est de l'autre côté de la route, mais la perspective, toujours elle, fait que sa pancarte touche presque ma jambe. Il n'a pas l'air très aimable, aucune aide à attendre de sa part. Recollant mon nez au cadre, j'entends soudain un bruit, celui de semelles en caoutchouc résonnant sur le bitume. Je me retourne, cet abruti aux yeux fermés s'est mis en mouvement. Nous nous faisons face. Il a les yeux grands ouverts à présent. Pris de panique, je tire sur ma main de toutes mes forces et comme par magie, elle se décolle du poteau. Prenant mes jambes à mon cou, je me mets à courir droit devant moi, longeant le trottoir et les bâtiments du hangar. D'abord surpris, l'autre se met à courir lui aussi, mais de son côté de la voie. Hé, attends, où tu vas comme ça? Dis-moi où tu vas, moi je ne sais pas, il n'y a rien d'écrit sur ma pancarte. Nous sommes arrivés au bout de l'île, au pied de la grue grise. S'enroulant autour d'un rond-point, la route file sur la gauche. Devant, ce sont les pavés, et en contrebas, la Loire. À bout de souffle, je me retourne. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi, sa pauvre pancarte muette à la main. Je peux continuer tout droit, passer sous l'énorme grue titan, sauter et tenter d'éviter l'hypothermie et la noyade. Je peux aussi fermer les yeux, et décider qu'à trois, l'homme aura disparu, je serai sortie de ce cauchemar, ma main gauche sera dans ma poche, et je serai hors de ce musée. Et tandis qu'il s'approche doucement de moi, un crissement de pneus sur les graviers d'abord, puis deux longs coups de cornes de brune retentissent. Un camion s'est arrêté un peu plus loin. La portière passager s'ouvre dans un grincement. Je lève la tête, mon regard et celui de l'autostoppeur de nulle part se croisent. Je peux aussi l'accompagner.
Hier, alors que je me baladais au centre-ville à bord de mon catamaran à roulettes, j'ai croisé un autostoppeur. Je fus tout de suite intrigué. Il était au milieu de la route. Il semblait ainsi vouloir aller dans les deux sens. Un peu plus intrigué encore, quand je vis que sa pancarte devant signaler sa destination était blanche. « Mais où allez-vous? Ce n'est pas indiqué !» L'homme, jeune, plutôt athlétique, sans particularité apparente, me répondit sans sourciller. Je ne vais nulle part. Comment ça, nulle part? Oui, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs? Mais ça n'a pas de sens. Oui, c'est tout à fait ça. Ça n'a aucun sens. C'est pourquoi vous vous êtes mis au milieu de la route? Oui, d'un côté je vais vers la mer bleue, de l'autre les montagnes blanches. Cela tombe bien. Avec mon kata à roulette, je peux aller dans les deux directions. Ok, mais vous en somme, c'est là où le vent vous porte. Amenez-moi où vous voulez si vous m'amenez. Je ne peux pas décider à votre place où vous voulez aller. Et puis moi, il fait beau, je vais goûter l'océan. Je parie que vous n'avez ni maillot ni serviette pour vous baigner. Ah, vous vous trompez. Et j'ai aussi les skis et tout l'attirail de montagne si vous changez d'avis. Il faut être prêt à tout quand le destin tape à la porte. Certes, on ne peut pas tout prévoir, mais d'aller à la mer ou à la montagne, c'est nous qui décidons. Vous croyez, maître de sa destination peut-être, et encore mais maître de son destin, alors là. Bien qu'un peu agacé par son ton péremptoire, finalement je l'embarquais. Nous discutâmes de nos vies respectives, très peu. De politique, bien sûr, il votait blanc. Me confia surtout son goût pour l'informatique, où en surfant sur le net, il pouvait visiter le monde de sa chambre, d'est en ouest, du nord au sud. Puis vint le temps de se quitter. Avant de descendre de mon engin, il me demanda « Vous savez quel est mon groupe préféré ?»« Non. » One Direction. C'est vrai? Non, c'est une blague. Allez, salut, à plus, me dit-il, en sachant tous les deux que nous ne reverrions pas. 10 minutes plus tard, baignade, nage. Un grand bien-être pour moi à chaque fois. Puis, je sortis du bain, me sécha au soleil, me préparant déjà à y retourner, quand je fus pris d'une envie intense d'aller à la montagne.
Il pleut sur Nantes, serrons-nous la pogne. Juin 2022. Sinueuse marâtre maussade, j'enserre la ville. Je chante la saoudade nantaise. La cité portuaire où je siège porte les lézards de lourds esclavages, les stigmates de mariages républicains funestes. Ce passé macabre d'ébène innommable, inavouable, relate les outrages ancillaires, telle une lame sombre. Elle tranche la jugulaire de notre mémoire, elle m'entrave, j'éructe ta garde, triste souveraine fluviale. Les quais aux édifices bourgeois érigés, témoins des butins et recels odieux, s'ornent de mascarons grimaçants qui, tels des gorgones, narguent la vanité insouciante du promeneur. Des nouveaux voyages ont orné mes flancs des anneaux de la mémoire, œuvre pérenne de Buren, hommage ou bien amulette pour conjurer le mauvais sort. Cette mémoire est un cauchemar, elle me hante et me condamne. Pourquoi ne serais-je pas sereine? J'aimerais tant y croire. M'enivrer d'insouciance, j'aimerais être seulement le témoin de guinguettes festives, de promenades printanières. Enfin, épargnée depuis des siècles, exorcisée de l'emprise de mes démons gloutons, alors que je me prenais à rêver à la fin de ce sort macabre depuis tant et tant d'années, je fus encore, hélas, une fois témoin de la fatale malédiction. Il y a seulement 3 ans, en 2019, mon passé funeste était bien loin. La musique battait son plein, c'était la fête de la musique, paraît-il. Tu étais là, parmi d'autres jeunes nantais. Oh, tu t'en souviens. Vous étiez si joyeux, si insouciant. Mon cœur palpitait, battait la chamade. Frivole, je chavirais en liesse avec vous en cette fête païenne. Mes flots frissonnaient, accompagnés par les pulsations syncopées. Enivré, j'étais parcouru par une légère houle, un clapot entêtant mais heureux. J'étais comme vous si joyeuse. La nuit était tombée depuis longtemps, l'aurore n'allait pas tarder à m'iriser. Quand soudain, un brouillard m'enveloppa. Des cris, des hurlements à peine ouatés ricochèrent dans la brume. J'entendais des chiens aboyer, des bruits de pas farçonnés, une émeute, la violence, la brutalité effrénée. Des corps tombaient dans mes flots bruns et sombres, l'horreur encore une fois perpétuée par les hommes. Un ordre du préfet, vous dispersez, stupide. Tu étais là, effrayé, terrifié, tu avais peur, tu courais. Tu tenais la main de ton ami, puis tu l'as perdue. Je vous ai reçus tous les deux en mes entrailles, seul ton ami restait en mon lit. Tu as perdu ton meilleur ami Steve, noyé en mes flots. Maintenant, jeune homme, tu es là, tu es revenu, perdu et perdu sur ma berge, je t'attendais. 3 ans que tu hésites, rester et le rejoindre ou partir. Ta tristesse est révolte, tantôt elle gronde, tantôt elle se résigne. Tu ne sais pas encore si tu restes à Nantes, terre du traumatisme qui t'abîme, ou si tu choisis le voyage. Je ne t'avais pas revu depuis 3 ans, ce triste anniversaire tu es revenu. Nous sommes liés à jamais. Tu es venu me demander conseil, alors écoute. Je peux, si ma mémoire dénoue l'étreinte funèbre, faire délivrance. Lors rédemption, je t'entraînerai, jeune homme. Hors de ma sépulture nigérienne, hors d'haleine à voile pleine, en baie nazérienne vers l'océan, la mer, promesse lointaine jusqu'à l'Éden. Tu largueras ta peine chagrine, tu seras le pirate de ton enfance qui se carapate et s'exalte, tu mettras les voiles à ta tristesse vagabonde. Jeune ami, la page est blanche, il te faut écrire une nouvelle histoire, libérer les barques de tes peines, libérer de tes chaînes. Tu t'es abîmé dans d'autres voyages, des addictions pour t'évader, tu t'es isolé, enfermé, tu as frôlé la folie. Tu étais sur la crête. Et puis, encore incrédule, encore incertain, vaille que vaille, tu as choisi le côté de la vie. Rendre hommage à Steve, ton ami. Tu es à quai, tes prunelles avides exigent les errances lointaines. Elles s'abîment en scrutant le lointain. Alors, mon jeune ami, je t'exhorte à vivre, vivre à la criée, à mettre les voiles. Ton baluchon est prêt, rends les amarres, amarrer à nouveau. Regarde, le Jean-François vient te chercher. Allez, embarque. Ben, l'hiverne, dit Jules, pas de Dieu, de demi-dieu, dit le Jacques. Je suis Loire et je t'emmène. Tu écriras dans tes carnets de voyage ton histoire que tu dédieras à Steve. Tu as déjà commencé aujourd'hui par ce texte en me donnant la parole. C'était un soir de fête le 21 juin 2019 à Nantes, quand Steve Maya Canisso est mort lors d'une opération policière à l'occasion de la fête de la musique. And I watch them roll away again. Sitting on the dock of the bay.
Je suis dans une situation où je ne peux ni être ce que je suis toujours, ni devenir ce que je pourrais être. Je ne sais où j'ai lu cela, mais je rumine cette phrase depuis quelque temps. J'attends Juliette sur les bords de Loire face au Bélème. D'après son dernier message, elle aurait un peu de retard. Ma relation avec Juliette oscille sans arrêt entre les plus et les moins. Il ne faut pas grand-chose pour que le prince charmant devienne le fiefé goujat, alors que j'aimerais que mes relations soient des plus subtiles. Aujourd'hui, c'est une très bonne copine. Quand elle m'appelle, j'arrive. Quand je suis dans la mouise, je me débrouille. La semaine dernière, je suis tombé des nues. Sans que je m'y attende, elle m'annonce « La semaine prochaine, nous profitons d'un grand week-end, je t'emmène au bout du monde. » Super ! Je prépare quoi ? Une valise ? Un sac à dos ? Des chaussures de marche ? « Je m'occupe de tout, tu lâches les écoutilles !» me répond-elle. Et elle est retournée devant son écran. J'ai préparé un fassa végétarien avec pois chiches, olives et légumes de saison. Je vais alors faire face à une semaine curieuse. Elle, face au dossier épineux, moi, dans les choses de la vie sans urgence particulière. Elle, dans les courants d'air, moi, à contempler le rocher qu'il me faudra remonter. Il n'était pas question de sortir la perceuse, le silence serait bienvenu. Alors, le choix des fuites dans la ville. Le musée d'art offre un voyage en train, un thème tout trouvé pour alimenter le désir d'ailleurs. Sans tergiverser, j'utilise le vélo pour rejoindre le centre-ville. Le nuage est devenu mon complice en restant en coulisses. L'air semble doux sur les bords de Loire où le Bélème est attendu dans les jours prochains. Devant le musée, les pas tranquilles de ceux qui relèguent aux calendes grecques un possible ouvrage. Je profite des salles clairsemées, des toiles de Monet, Van Gogh et Mondrian. Le voyage est un art et je m'imagine sur un quai sans fumée, certes, mais avec l'incertitude de la destination vrillée au corps. Au sous-sol, une exubérance de trains miniatures, le souvenir d'un enfant avec ses aiguillages, ses bip-bip, ses passages à niveau. À l'étage supérieur, une salle vide, désertée, avec une voiture rouge à double entrée, un méli-mélo d'avant et d'arrière, un véhicule à mon image, indécis sur les destinations à prendre. Accrochés sur les murs, des hiéroglyphes abscons et une image énigmatique d'un homme en attente, une pancarte muette dans les mains, prêt à toutes les propositions. Les jours suivants, devant toujours laisser la maison dans son silence, j'ai utilisé le ferry pour me perdre dans le village de Trentemoux. J'ai envié Clapiche et Schefter dans leur résidence au cœur de la Bretagne. J'ai déambulé dans un marché de banlieue en quête de denrées rares. J'ai profité de la douceur de l'air pour me plonger dans la lecture d'une longue histoire de marin qui ne savait pas nager. En un mot, j'ai bouiné, ne rejoignant la cuisine qu'en soirée pour le confort de Juliette. Sans heurts, sans éclat, doucement, le temps est passé. Là, j'attends Juliette. Le rendez-vous prévu dans la gare de Nantes avait été annulé. Le texto suivant m'indiquait le bord de Loire face au Bellem débarqué dans la nuit. Un livre en main, comme souvent, je me suis installé sur la berge opposée, un ciel extravagant sans le moindre nuage, le tumulte des mouettes, la fraîcheur de l'air en novembre et le lointain de la circulation ne m'ont pas troublé. Déjà, les itinéraires parcourus cette semaine sortent des chemins ordinaires. Je suis prêt, quelle que soit la direction à prendre, sans craindre le barrissement d'un éléphant. Arrive un tourbillon, une Juliette radieuse, les yeux lumineux, le sourire espiègle, le cheveu dans le vent. Son corps respire un réel appétit de vivre. Elle se jette dans mes bras et, innocemment, elle me murmure. « Alors, tu m'emmènes où ?»
Poussez, 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 respirez.
La femme se plie à la douleur ainsi qu'aux instructions. Elle se contracte pour pousser et gonfle ses poumons pour inspirer. Dans la ville de Saint-Nazaire, une femme accouche dans une salle de travail du centre hospitalier, service maternité, niveau 2B. L'hôpital affirme que c'est une belle aventure et qu'il met tout en œuvre pour que vous puissiez vivre votre accouchement dans le respect de votre choix, en toute sécurité. Enzo, lui, il réfléchit. Enzo, c'est le prénom que la femme lui susurre depuis qu'elle sait qu'elle va mettre au monde un garçon. Ils se sont mis d'accord tous les deux, l'homme et la femme. Enzo est conscient des poussées qui le projettent violemment vers les cuisses de la femme, ainsi que des respirations de celle qui sera sa mère. Elle le soulage quand elle les exerce. Il souffre. Physiquement d'abord, car il manque d'oxygène malgré celui que lui envoie sa mère au cours de ses allaitements saccadés ou prolongés, mais également psychologiquement. Il ne sait toujours pas s'il veut respirer à l'air libre. L'air libre, quelle blague! Enzo, tout comme sa mère depuis 9 mois à présent, suit l'actualité. Il sait, lui, que l'air n'est pas libre, qu'il est pollué. Et il est si bien là où il est. Pourquoi se faire transporter dans un air qui provoque des maladies chroniques des poumons, des maladies cardiovasculaires ou pire encore, des cancers du poumon qui débouchent sur une mort lente et affreusement douloureuse? Il retient les poussées avec son petit corps. Il s'accroche à ce monde qu'il connaît parce qu'il ignore encore s'il veut le laisser derrière lui. Il se rappelle les termes entendus lors des journaux télévisés. COP27, vagues de chaleur, incendies, inondations, effet de serre, fonte des glaciers, montée des océans, disparition des espèces, catastrophes naturelles. Enzo hurle. Cela fait 9 mois qu'il connaît le chaos. Sa mère hurle de douleur. Elle pousse tant qu'elle peut, mais la tête du fœtus n'est toujours pas visible pour le gynécologue, malgré une ouverture maximale du col de l'utérus. L'obstétricien ne comprend pas. Les examens de la mère sont parfaits, tous les signes d'un accouchement imminent sont présents, la mère fait très exactement ce qui lui est demandé, et malgré cela, le fœtus n'apparaît pas. La femme s'épuise vainement et le médecin songe à utiliser les forceps, instrument barbare s'il en est, mais il faut délivrer la mère. La mère respire de plus en plus frénétiquement, elle étouffe, elle angoisse. Elle sait qu'un premier accouchement est censé être long, mais elle sent que quelque chose ne va pas. Le gynécologue s'est montré rassurant et compétent tout au long de la grossesse. Pourtant, même si elle lui accorde encore sa confiance, elle se met à pousser plus vigoureusement que jamais, en utilisant toute sa volonté et toutes ses forces afin d'aider Enzo à venir vers elle. Elle utilise toute son ardeur dans ce seul et unique but, aider Enzo. Elle ne pense plus à rien, ni à sa douleur, ni à quelque difficulté que ce soit qui puisse empêcher Enzo de respirer ailleurs qu'en elle. Elle pousse, encore et encore. Enzo a du mal à respirer. Ça ressemble à ça, une maladie chronique des poumons? Il se contracte. C'est comme cela qu'il a réagi chaque fois qu'il a entendu parler de ce monde extérieur qui va si mal. Il sent que sa mère veut l'y amener et il ne comprend pas pourquoi. L'aime-t-elle? Il est recroquevillé, la tête entre les épaules, ses petits poings serrés contre sa frêle poitrine, ses jambes remontées contre son abdomen. Il ne crie plus. Silencieusement, des larmes chaudes et abondantes coulent lentement de ses yeux et terminent leur course en se mêlant au liquide amniotique dans lequel il baigne, dans lequel il se sent en sécurité car il garantit la stabilité de son environnement, dans ce liquide où sa mère et lui ne font qu'une seule et même personne, ce liquide qui doit lui permettre de vivre en le séparant d'elle. Le gynécologue est de plus en plus inquiet. Il se tourne un instant vers la fenêtre de la chambre et récapitule les événements tout en balayant la zone portuaire du regard. La femme ne va pas tenir le coup longtemps si elle continue à s'épuiser de la sorte, il en est conscient. 4 heures de travail à présent. Elle est exténuée et la tête du bébé n'arrive toujours pas malgré ses efforts. Il se retourne, la regarde suffoquée, pâlir et finalement sombrer dans l'inconscience. Les infirmières le scrutent, attendant une décision. Il se prononce en faveur d'une mesure d'urgence, une césarienne. Le non-engagement du bébé à dilatation complète de l'utérus ne laisse pas d'autre choix. Il intime immédiatement l'ordre de conduire la femme en salle d'opération. Enzo, recroquevillé, ne ressent plus les poussées données par sa mère. Il a beaucoup plus de place à présent et déplie ses petits membres lentement. Que se passe-t-il dehors? Aurait-on enfin compris qu'il n'est pas prêt et même qu'il ne veut pas sortir? Enzo n'ose y croire. Et pourtant, il se dit qu'ils ont compris, qu'ils vont le laisser là où il vit en toute quiétude. Il se demande comment tous les autres ont su qu'ils étaient prêts. Comment sa mère l'a su? Il aimerait tant avoir une réponse, mais dans les journaux télévisés, rien de tel. Et si c'était lui qui se trompait? Non, il ne se trompe pas. Il ne veut pas de ce monde. Il a eu de longs mois pour réfléchir. Et après le questionnement, l'évidence. L'imminence de son arrivée lui a fourni la réponse. Non, il ne veut pas vivre dans un monde où les richesses naturelles planétaires sont ignorées au profit de l'économie. Pas question. Même sa venue au monde est violente. Alors qu'en sera-t-il par la suite? Alors que la mère, revenue à elle mais sans force, est installée sur la table d'opération, le bas de son corps s'insensibilise très vite grâce à un produit anesthésiant injecté dans le liquide céphalorachidien par l'anesthésiste. L'obstétricien et son équipe d'infirmières procèdent à l'intervention chirurgicale, incision horizontale au-dessus du pubis, puis ouverture progressive de différentes épaisseurs pour accéder à l'utérus. La graisse puis les muscles sont écartés au doigt. Enfin, l'ouverture du péritoine qui permet l'accès à la cavité abdominale et à l'utérus. Déchirure de la poche des os et l'obstétricien aperçoit enfin le fœtus. Enzo perçoit que le liquide amniotique s'échappe. Il sent de l'air froid sur son petit corps. Que se passe-t-il? Est-ce que son monde douillet va mal lui aussi? Il a cru qu'il était protégé ici et que c'était lui qui prenait la grande décision. Manifestement, la décision ne lui appartient pas. Est-ce que tous les mondes vont mal? Des mains l'attrapent alors sous les bras, en prenant soin de bien caler sa tête. Les yeux d'Enzo sont transpercés par la lumière. Il se recroqueville de nouveau. Il a froid, si froid. L'obstétricien coupe le cordon et Enzo crie, ou plutôt il s'époumonne. Non! Une infirmière couche Enzo rugissant à plein poumon aux côtés de sa maman. Un beau garçon, madame, en pleine forme si je me fie à la vigueur de ses cris.
FM 91.2, les ateliers des Valouna.
Vous avez entendu Immersion de Nathalie Baraban, Autostoppeur de Philippe Coat, Il pleut sur Nantes de Muriel Becquet, Le Bélème de Michel Frappard, Le Cri de Valérie Zimmermann. Tous les textes ont été lus par leurs auteurs. L'émission a été réalisée par Sylvie Bauget. Réalisation technique, Luc Richard. Voix, Marie-Jacques.